Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, 5e cassette, 2e face, page 121. Prenant des chemins détournés, Tom rejoignit la maison de sa tante par le côté opposé à la rue, franchit la clôture et inspecta la fenêtre éclairée au rez-de-chaussée. Dans la grande pièce, Tante Polly, Sid, Marie et la mère de Joe Harper étaient réunis près du lit et causaient. Le lit les séparait de la porte. Tom s'approcha de la porte. Avec précaution, il souleva le loquet, poussa légèrement. La porte grinça. Il continua à pousser prudemment, tremblant d'angoisse chaque fois que la porte grinçait, jusqu'à ce qu'il pût entrer en se mettant à genoux. Il passa la tête et finit par pénétrer dans la pièce sans être vu.
« Qu'est-ce qui fait vaciller comme ça la flamme de la chandelle ?»
demanda Tante Polly. Tom précipita le mouvement.
« Mais on dirait que la porte n'est pas fermée. Ma parole, elle est ouverte. Il se passe ici des choses bizarres. Va fermer la porte, mon petit Sid. »
Tom eut juste le temps de se dissimuler sous le lit. Il reprit haleine et rampa sous le lit jusqu'à toucher presque les pieds de sa tante.
« Comme je vous le disais, » reprit Tante Polly, « ce n'était pas un mauvais garçon, Tom. Espiègle, étourdi et cervelé comme un cheval échappé, c'est entendu. Mais il ne pensait pas à mal. En tout cas, il avait bon cœur.
Et elle se mit à pleurer.
C'est tout comme mon Joe, dit Madame Harper. Malicieux, toujours prêt à jouer des tours, mais pas égoïste pour deux sous. Un bon garçon. Mon Dieu, quand je pense que je l'ai fouetté pour avoir pris cette crème que j'avais jetée moi-même parce qu'elle était aigre. Et que plus jamais, jamais en ce monde, je me reverrai ce pauvre enfant.
Et Madame Harper sanglota comme si son cœur allait éclater.
J'espère que Tom n'est pas trop mal là où il est, dit Sid. Tout de même, s'il avait été plus sage. Oh, Sid, que dis-tu ?
S'écria Tante Polly. Tom ne pouvait pas voir la lueur qui passa dans le regard de sa tante. Mais il s'en rendit compte.
Pas un mot contre mon Tom maintenant qu'il n'est plus. Le bon Dieu prendra soin de lui, ne t'inquiète pas. Oh, Madame Harper, je ne pourrai jamais m'y faire. Je ne m'en consolerai jamais. Il était temps pour moi, oh, bien qu'il m'ait si souvent fait enrager. Le Seigneur vous l'a donné. Le Seigneur l'a repris. Béni soit le nom du Seigneur,
dit Madame Harper.
Mais c'est dur, c'est bien dur. Tenez. Samedi dernier, mon Joe m'a fait éclater un pétard juste sous mon nez. Je lui ai administré une de ses corrections. Ah, je ne me doutais pas que bientôt. Mais s'il recommençait maintenant, mais je l'embrasserai. Ah oui, Madame Harper, dit Tante Polly, je me rends compte de ce que vous éprouvez. Ainsi, pas plus tard qu'hier, à midi. Mon Tom a fait prendre au chat une cuillerée d'élixir reconstituant et j'ai bien cru que la malheureuse bête allait tout casser dans la maison. Dieu me pardonne. Ah, j'ai donné à moi Tom des coups sur la tête avec mon dé à coude, le pauvre petit. Mais maintenant, là où il est, au ciel, il ne souffre plus. Et le dernier mot qu'il m'aura dit, c'était un mot de reproche. Oh.
Cette évocation, c'était plus que la vieille dame n'en pouvait supporter. Et elle ne put pas achever sa phrase. Tom avait toutes les peines du monde à empêcher son émotion de s'extérioriser, encore qu'il s'attendrit plus sur lui-même que sur les autres. Il entendait Marie pleurer et dire de temps en temps quelques mots gentils sur son compte. Et il remonta dans sa propre estime. Cependant, le chagrin de sa tante le touchait tellement qu'il éprouvait un violent désir de sortir de sous le lit et de lui sauter au cou, de la consoler. L'effet sensationnel de ce coup de théâtre le tentait beaucoup, mais il sut dominer, se dominer, et resta tranquille. Continuant à écouter, il apprit par bribes successives qu'on avait d'abord supposé que ses amis et lui s'étaient noyés en prenant un bain dans le fleuve. Ensuite était parvenue la nouvelle de la disparition du radeau. Puis certains enfants avaient raconté qu'un soir, les disparus avaient promis qu'on verrait bientôt du nouveau. Les plus malins avaient fait des recoupements et en concluaient que les enfants étaient partis sur le radeau, qu'il ne s'agissait que d'une promenade jusqu'au village voisin. Mais vers midi, on avait retrouvé le radeau dans une petite crique à quelques 10 kilomètres de la localité et tout espoir s'était évanoui. Ils devaient s'être noyés, sans quoi la faim les eût certainement ramenés à la tombée de la nuit, sinon plus tôt. Si les recherches entreprises pour retrouver les corps étaient restées sans résultat, c'était parce que l'accident avait dû se produire au milieu du fleuve. Autrement, les enfants, bons nageurs, auraient regagné la rive. On en était à mercredi soir. Si d'ici dimanche, on ne retrouvait rien, il faudrait abandonner tout espoir et célébrer le service funèbre dimanche matin. Tom en eut froid dans le dos. Madame Harper dit adieu en sanglotant et se leva pour partir. D'un même mouvement, les deux femmes en larmes se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. Madame Harper partit. Tante Polly embrassa Sid et Marie plus tendrement que d'habitude. Quand ils sortirent, Sid reniflait un peu et Marie pleurait à chaudes larmes. Restée seule, tante Polly se mit à genoux et pria à haute voix pour Tom d'une manière si touchante et avec tant d'affection dans sa vieille voix qu'avant qu'elle eût fini sa prière, le visage de Tom était baigné de larmes silencieuses. Il lui fallut rester immobile longtemps après qu'elle se fût couchée. Elle soupirait, elle s'agitait, elle se retournait. Enfin, elle se calma. Dans son sommeil, elle gémissait encore. Tom se glissa hors de sa cachette et s'abritant avec sa main de la lumière de la chandelle, il regarda sa tante. Son cœur était plein d'une tendre pitié pour elle. Il tira de sa poche son morceau d'écorce et le déposa près de la bougie. Mais subitement, il s'arrêta, songeur. L'idée lui était venue d'une solution meilleure. Il se ravisa, remit en hâte le morceau d'écorce dans sa poche, déposa un baiser sur le visage fatigué de sa tante et sortit de la pièce sans bruit en refermant la porte. D'un pas rapide, il regagna l'embarcadère du vapeur. Il n'y avait personne. Il monta à bord du bateau. Le seul homme à bord, quand il voulait bien y être, c'était un gardien qui dormait comme une pioche. Tom détacha le canot, s'y glissa et se mit à ramer pour remonter le courant. Lorsqu'il eut fait 1500 mètres en amont du village, il navigua de biais. C'était la partie la plus difficile du parcours. Il regagna la rive juste à l'endroit voulu. Tom savait manœuvrer. Un moment, il lui vint l'idée de s'emparer du canot. Après tout, on pouvait le considérer comme un navire, donc de bonne prise pour un pirate. Mais il réfléchit qu'on entreprendrait peut-être des recherches susceptibles d'amener la découverte de leurs repères. Il abandonna ce projet, sauta à terre et pénétra dans le bois qui bordait le rivage. Là, il s'assit pour se reposer. Il eut toutes les peines du monde à ne pas s'endormir. Puis il reprit sa route. La nuit touchait à sa fin. Il faisait jour lorsqu'il se trouva à hauteur du banc de sable. Il se reposa de nouveau, jusqu'à ce que le soleil fût relativement haut au-dessus de l'horizon et eût embrasé le grand fleuve de toute sa splendeur. Tom, alors, plongea dans le courant. Un peu plus tard, ruisselant, il arrivait au campement, juste à temps pour entendre Joe dire « Non, Tom est loyal, Luc. Il reviendra. Ça n'est pas un déserteur. Il sait que ce serait une honte pour un pirate, et Tom a bien trop d'amour-propre pour nous faire un coup pareil. Il a sûrement une idée en tête. Mais laquelle ?»«
En tout cas, » dit Luc, « ce qu'il a laissé dans ton chapeau est à nous, pas vrai ?»«
Presque, mais pas encore, » reprit Joe. « Il a écrit que ce serait à nous s'il n'était pas de retour pour déjeuner. »«
Coucou, le voilà !» s'écria Tom qui avait soigné son effet. Et il fit une entrée majestueuse. Un somptueux repas, composé de lard et de poisson, s'ensuivit. Pendant qu'on le préparait, Tom raconta ses aventures en les enjolivant quelque peu. Le récit achevé, toute la bande fut aussi fière d'elle-même que si tous ses membres y avaient participé. Tom alla s'étendre dans un coin ombreux jusqu'à midi, tandis que les autres pirates partaient en exploration. Chapitre 16. Le canif perdu. Après le dîner, les pirates partirent à la recherche d'œufs de tortue sur le banc de sable. Ils allaient de ci de là, tâtant dans le sable avec un bâton. Là où le bâton s'enfonçait plus facilement, ils s'agenouillaient et creusaient avec leurs mains. Dans un seul trou, il y a parfois 50 ou même 60 œufs parfaitement ronds et à peine plus gros qu'une noix. Ce soir-là, les œufs de tortue firent les frais du festin. Le lendemain matin, il en restait assez pour le petit déjeuner. Après quoi, les trois amis allèrent jouer sur la plage, formée par le sable blanc, puis ils se déshabillèrent et entrèrent dans l'eau peu profonde au-dessus du banc. La violence du courant occasionna de nombreuses chutes qui firent leur joie. Les gamins se prirent à bras-le-corps. La lutte finissait par un plongeon où vainqueurs et vaincus disparaissaient. On n'apercevait plus au-dessus de l'eau qu'un fouillis de bras et de jambes. Les adversaires étaient ravis. Quand ils étaient fatigués, ils se roulaient sur le sable chaud, s'en recouvraient, puis retournaient dans l'eau et recommençaient leurs ébats. Ensuite, ils tracèrent un rond sur le sable et jouèrent au cirque, un cirque où il y avait trois clowns. Aucun d'eux n'aurait voulu renoncer à ce rôle prestigieux en faveur de son voisin. Après quoi, il y eut une partie de billes. Puis Joe et Huck retournèrent à l'eau. Cette fois, Tom ne voulut pas y aller. Il s'était aperçu qu'en se déshabillant, il avait perdu le bracelet en peau de serpent à sonnette qu'il portait à la cheville contre les crampes. Quand il eut retrouvé son bracelet, les autres étaient fatigués et voulurent se reposer. Le repos entraîne à la rêverie, voire à la mélancolie. Ils songèrent que là-bas, de l'autre côté du fleuve, se trouvait leur village natal, éclairé par les rayons du soleil. Tom se surprit en train d'écrire avec son orteil le nom de Becky sur le sable. Il l'effaça et se reprocha cette faiblesse. Mais il recommença. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il l'effaça de nouveau. Et pour ne plus céder à la tentation, il rejoignit ses camarades. Le moral de Joe était bas, très bas, tellement bas qu'il y avait lieu de se demander s'il pourrait jamais remonter. Il avait tellement la nostalgie, le cafard de sa maison, qu'il ne pouvait se faire à l'idée d'en être privé. Les larmes n'étaient pas loin. Huck n'était pas gai non plus. Tom était découragé, mais s'efforçait bravement de ne pas le laisser paraître. Il gardait en réserve un secret qu'il ne voulait pas encore révéler. Mais si la mauvaise humeur ne se dissipait pas, il serait obligé de parler. C'est d'un air enjoué qu'il s'exclama. « Les gars, je parie que nous ne sommes pas les premiers pirates sur cette île. Il faut que nous partions à la découverte. Il y a sûrement un trésor caché quelque part. Ça en serait une affaire de trouver un coffre plein d'or et d'argent, hein ? L'enthousiasme soulevé par cette proposition ne dura guère. Tom fit encore 2 ou 3 tentatives sans plus de succès. Ça ne rendait pas. Joe grattait le sable avec un bâton. Il avait l'air de porter le diable en terre. Il finit par dire « Moi, je propose qu'on abandonne. Je veux retourner chez moi. On est trop seul ici. » « Mais non, mon vieux, dit Tom, ça va se tasser. Pense aux belles parties de pêche que nous faisons. »«
Je m'en fiche de la pêche. Je veux retourner chez moi. »
« Voyons, dit Tom, tu ne seras jamais mieux pour nager qu'ici. »«
Nager, j'en ai marre. On dirait que pour que ça m'amuse, il faut qu'on me le défende. Je veux m'en aller. »«
Ah ah ah, dit Tom, bébé qui veut retourner chez sa maman. »«
Oui, je veux retourner chez ma maman. Et si vous aviez la vôtre, vous feriez comme moi tous les deux. Je ne suis pas plus bébé qu'un autre. » dit Joe en niflant.
« Eh bien, c'est ça, dit Tom. Laisse son bébé retourner chez sa maman, n'est-ce pas, Huc ?
Pauvre petit, il veut voir sa maman. Il ira la voir, mais oui.
Nous, nous restons ici. Huc, qu'est-ce que tu en dis ?»
Le moins qu'on puisse dire, c'est que le « ouais » de Huc manquait de conviction.
« Je ne te parlerai plus jamais de ma vie, » dit Joe en se levant pour se rhabiller. «
Tant pis, » dit Tom, « je te le demande pas. Rentre chez toi pour qu'on se moque de toi. »«
En voilà un pirate. Huc et moi, nous ne sommes pas des bébés. Nous restons, n'est-ce pas, Huc ? Que Joe retourne chez lui s'il veut. Nous n'avons pas besoin de lui. »
En dépit de sa fanfaronnade, Tom manquait d'assurance. De voir Joe se rhabiller... Cela l'ennuyait. Il n'aimait pas non plus voir que Huc suivait avec envie les préparatifs de Joe et gardait un silence de mauvais augure. Sans dire un mot d'adieu, Joe se dirigea vers le banc de sable. Tom sentit son cœur se serrer. Il regarda Huc. Huc détourna les yeux et dit « Moi aussi je veux m'en aller, Tom. » « On est trop isolés ici, et ça ira de mal en pis. Allons-nous-en. »«
Certainement pas, dit Tom. Allez-vous-en tous les deux, si vous voulez. Moi, je reste. »«
Tom, dit Huc, j'aime mieux m'en aller. »«
Ben, va-t'en, qu'est-ce qui te retient ?»
Huc ramassa ses hardes.
« Tom, tu ferais mieux de venir aussi, toi. Réfléchis. Nous t'attendrons sur l'autre rive. »
« Eh bien, vous m'attendrez longtemps. C'est moi qui vous le dis. »
Huc s'éloigna, le cœur gros. Tom le regarda s'en aller. Une lutte s'engagea en lui entre l'orgueil de rester et le désir de les suivre. Il espérait que les deux autres se raviseraient, mais eux, lentement, continuaient leur route. Imposant le silence à son amour-propre, Tom courut après eux et leur cria «
Attendez, attendez, j'ai quelque chose à vous dire !»
Ils s'arrêtèrent et firent demi-tour. Tom les rejoignit. Il leur confia son secret. Ils écoutèrent, d'abord d'un air maussade, mais quand ils virent où Tom voulait en venir, ils applaudirent avec des cris de joie à son idée.
« Merveilleux !» s'écria Joe. « Si tu m'avais dit ça plus tôt, nous ne serions pas partis !»
Tom trouva une excuse. Mais en réalité, il avait eu peur que ce secret lui-même, sa dernière arme, ne réussît pas à les retenir bien longtemps. Aussi avait-il combiné de ne s'en servir qu'en dernier ressort. Les enfants revinrent gaiement. Les jeux reprirent avec entrain. Le plan de Tom était admirable, génial. Le repas se composa d'œufs et de poissons. Après quoi, Tom déclara qu'il voulait apprendre à fumer. Joe emboîta le pas. Huc leur fabriqua des pipes qu'il bourra. Les novices n'avaient encore fumé que des cigares faits de feuilles de vigne qui piquent la langue et sont tout au plus bons pour des enfants. Ils s'allongèrent par terre, s'appuyèrent sur un coude et, non sans quelque crainte, commencèrent à tirer les premières bouffées. La fumée n'avait pas très bon goût. Ils toussèrent un peu. Tom dit.
« Oh, mais c'est pas difficile. Si j'avais su que c'était si simple que ça, j'aurais appris plus tôt. »«
Moi aussi, » dit Joe, « ça n'est rien du tout. »«
Bien des fois, » dit Tom, « j'ai regardé les gens fumer et j'ai eu envie d'en faire autant, mais je croyais pas que c'était si facile que ça. »«
Moi aussi, » dit Joe, « j'en ai eu envie. Huck, je t'en ai parlé plus d'une fois, hein ?»«
Ouais, bien des fois, » dit Huck.
« Eh bien, moi alors, » dit Tom, « des centaines de fois. » Tu te rappelles pas, près de l'abattoir, même que Bob Tanner était là, et Johnny Miller, et Jeff Thatcher aussi. Tu te rappelles pas, Huck?
Si, si, dit Huck. C'était le lendemain du jour où j'ai perdu une bille blanche. Non, c'était la veille.
Tiens, dit Tom, la preuve, c'est que Huck se rappelle.
Il me semble que je pourrais fumer la pipe toute la journée, dit Joe. Je n'ai pas mal au cœur.
Moi non plus, dit Tom. « Je fumerai bien toute la journée, mais je parie que Jeff Thatcher ne pourrait pas. »«
Jeff Thatcher ?» dit Joe. « Il tournerait de l'œil avant d'avoir aspiré deux bouffées. T'as qu'à lui faire essayer. »«
Et Johnny Miller ?» dit Tom. « Ah, je voudrais bien l'y voir. »«
Johnny Miller ?» s'écria Joe. « Avec une seule bouffée, il serait frais. »«
Dis donc, Joe, si les copains nous voyaient. »« Tu parles, Tom. »
Faut rien leur dire, dit Tom. Et une fois qu'on sera tous ensemble, je te dirai.
Dis donc, Joe, j'ai envie de fumer. T'as pas une pipe?
Et toi, tu me répondras, sans avoir l'air d'y toucher.
Ouais, j'ai ma vieille pipe, et j'en ai une autre que je peux te prêter, mais mon tabac n'est pas fameux.
Je te répondrai. Oh, ça n'a pas d'importance, du moment qu'il est assez fort.
Et puis tu sortiras tes pipes, et on les allumera. Et tu verras la tête qu'ils feront.
Ça alors, dit Joe, ça sera crevant. Je voudrais déjà y être.
Moi aussi, dit Tom. Et quand on leur dira qu'on a appris à fumer quand on était pirate, ils regretteront de ne pas être venus.
Sûrement, dit Joe. Etc., etc., etc. La conversation continua sur ce ton. Bientôt, elle devint décousue et tomba. Un silence régna. Les fumeurs commencèrent à cracher. Leurs glandes salivaires devenaient de véritables fontaines. Bientôt, ils n'arrivèrent plus à cracher assez vite pour éliminer l'excès de salive qui se formait. Le trop-plein se déversa dans la gorge. De temps à autre, il leur fallut réprimer un haut-le-cœur intempestif. Les deux débutants étaient livides. La pipe de Joe lui glissa des mains. Celle de Tom en fit autant. Et la salive montait toujours. Joe dit d'une voix blanche.
J'ai perdu mon canif. Il faut que j'aille le rechercher.
Les lèvres de Tom tremblaient. Il chevrota.
Je vais t'aider. Toi, va de ce côté-là et moi, je vais du côté de la source. Te dérange pas, Huck. On le trouvera bien sans toi.
Huck se rassit et attendit. Il attendit une heure. Trouvant le temps long, il partit à la recherche de ses camarades. L'un et l'autre dormaient à poings fermés, chacun de son côté. Un rapide examen des lieux démontra à Huck que si ses deux amis avaient éprouvé un malaise quelconque, ils avaient fait le nécessaire pour y mettre fin. Tu comprends bien sûr qu'ils avaient vomi. Au dîner ce soir-là, la conversation ne fut pas très nourrie. Quand, après le repas, Hugh bourra sa pipe et offrit d'en préparer deux autres, Tom et Joe déclinèrent en prétextant qu'ils ne se sentaient pas très bien et qu'ils avaient dû manger quelque chose d'un peu indigeste. Vers minuit, Joe se réveilla et appela ses camarades. L'atmosphère était lourde, d'une lourdeur de mauvais aloi. Malgré la chaleur écrasante, les enfants se serrèrent les uns contre les autres près du feu. Ils s'assirent et attendirent les événements. Le silence continuait. La lueur du feu faisait paraître encore plus opaque l'obscurité environnante. Tout à coup, une brève lueur éclaira un instant le feuillage des grands arbres. Le fait se reproduisit plusieurs fois. La forêt fit entendre une sorte de gémissement. Sentant soudain une brise leur caresser la figure, les enfants frissonnèrent à l'idée que ce pouvait être l'haleine de l'esprit de la nuit. Après une accalmie, un nouvel éclair illumina comme en plein jour tout le paysage dans ses plus petits détails et se refléta sur trois visages blêmes et effarés. Un coup de tonnerre retentit formidable et se perdit en grondements sinistres dans le lointain. Un vent froid éparpilla les feuilles mortes ainsi que les cendres du foyer. Un autre éclair illumina la forêt et fut immédiatement suivi d'un fracas tel qu'il donna l'impression de déchiqueter la cime des arbres juste au-dessus de la tête des enfants. Terrifiés, ceux-ci se cramponnaient les uns aux autres dans l'ombre que les éclairs ne faisaient qu'accentuer. Quelques grosses gouttes de pluie claquèrent sur les feuilles. « Les gars, vite à la tente !» s'écria Tom. Butant dans les racines, se prenant les pieds dans les lianes, ils bondirent dans trois directions différentes. Une violente rafale secoua les arbres, faisant tout vibrer sur son passage. Les éclairs succédèrent aux éclairs, les coups de tonnerre aux coups de tonnerre. Une pluie torrentielle vint à tomber et la tempête qui s'élevait chassait l'eau en nappe qui balayait le sol. Les enfants s'interpellaient en criant à tue-tête, mais le vent et le tonnerre les empêchaient de s'entendre. Un à un, ils parvinrent néanmoins à se frayer un chemin et regagnèrent l'abri de la tente. Ils avaient froid, ils avaient peur, ils étaient trempés. Mais dans un tel cataclysme, ne pas être seul, c'était déjà quelque chose. La tempête devint encore plus forte. La voile fut arrachée et s'envola. Les enfants se prirent par la main et au prix de quelques chutes et de multiples contusions, coururent chercher un refuge sous un gros chêne au bord de la rivière. Les éléments étaient déchaînés. Une suite ininterrompue d'éclairs projetait sa lueur crue et sans ombre sur les arbres, sur les vagues, sur les falaises de la rive opposée, que, par intervalles, entre les nuages à la dérive et le voile oblique de la pluie, on voyait comme un plein jour. Les arbres pliaient sous la rafale. L'eau du fleuve se soulevait en grandes vagues blanches d'écume que prolongeaient les embruns. De temps à autre, un arbre déraciné tombait sur les broussailles environnantes. De terrifiants coups de tonnerre déchiraient les oreilles. La tempête, que l'on eût cru parvenue au maximum de sa violence, redoubla encore. L'île sembla se disloquer. Les enfants eurent l'impression qu'elle allait tout à la fois être emportée par le vent, sombrer dans le fleuve, disparaître dans l'eau jusqu'à la cime des arbres, dans un bruit assourdissant. Rude nuit pour de jeunes égarés. Fin de la deuxième face de la cinquième cassette, Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, page 132.